Bonjour et bienvenue à l'imparfaite qui a son mot à dire. Le sujet de cette semaine est « Pardonner à ses agresseurs ». Ouf, tout un titre, n'est-ce pas? Il comporte deux mots qui peuvent vous faire tourner la tête et vous donner la nausée si votre cœur a été blessé à maintes reprises. Je préfère en débutant vous rassurer que le sujet ne sera pas lourd pendant l'épisode au grand complet. Ne vous en faites pas, il y a de la lumière au bout du tunnel. On en discute dans quelques secondes et j'aurai aussi une invitée qui se fera un plaisir de se joindre à nous. Tourlou! Donc, afin d'arriver au bout de ce cher tunnel, je dois vous partager le cheminement qui m'a permis de pouvoir parler de ces moments difficiles aujourd'hui avec espoir, courage et même avec fierté. Car je suis une survivante et non pas un mot que je déteste, une victime. Non, non, non! Je ne suis pas une victime et ça m'attriste lorsque des femmes sont agressées qu'elles deviennent par la suite des victimes. Pas des femmes fortes, des combattantes, des survivantes. On doit faire attention aux mots que l'on utilise afin de se décrire. Ces mots nous élèvent ou nous abaissent. Faut faire son choix. Donc, j'avais le goût de prendre un sujet délicat, sérieux et de le transformer afin que celui-ci devienne un sujet victorieux. Un sujet qui touche tristement énormément de femmes, dont moi. Ce sujet, ces agresseurs, ils ont fait partie de ma vie très tôt, à mon tout jeune âge, jusqu'à il y a quelques années. Lorsque je parle d'agresseurs, je parle d'harcèlement, d'agression sexuelle, de menaces, d'être convoqué en cour devant juge et accompagné de l'agresseur d'un côté et de policiers de l'autre, de membres de ma famille, d'inconnus, de voisins, et d'anciens conjoints. Tous ces gens, dont je ne nommerai pas le nom bien entendu, ont tous joué un rôle primordial dans ma vie. Ces gens, leurs actes, m'ont rendu qui je suis. Maintenant, je suis heureuse et je n'ai aucun problème à parler de ces agressions ou de ce qu'elles m'ont fait, mais le cheminement a été très, très long et laborieux. Le pardon a été la seule solution. Pour moi, c'était la seule. Il n'y en a pas eu 36. Ce fut, veux, veux pas, le pardon. J'ai dû leur pardonner, mais à moi aussi. Oui, ma foi y est pour quelque chose, mais je n'ai pas toujours été croyante. Et je savais qu'afin d'aller de l'avant avec ma vie, que je devais pouvoir pardonner. Mais je n'y arrivais jamais. J'y suis arrivée il y a environ une dizaine d'années. Ce fut à la suite de ma dernière tentative de suicide. Oui. Car cette femme que vous entendez, qui semble si joyeuse, ne l'était pas du tout dans sa vingtaine, trentaine et quarantaine. J'avais mes masques, voyez-vous. J'en avais une collection. Et en plus, l'orgueil en moi était immense. Je n'arrêtais pas de dire que j'étais indépendante, je n'ai besoin de personne, je suis forte, je peux tout gérer absolument toute seule. Et à force de me le dire, j'ai fini par me convaincre, mais ce fardeau était en train de me tuer à petit feu. Voyez-vous, j'avais appris à me débrouiller seule très jeune. Étant enfant unique et vivant avec une mère majoritairement pessimiste, négative et violente, elle n'appréciait pas trop la compagnie de mes petits amis. J'ai donc fini par accepter que je devrais m'amuser souvent seule, sinon aller simplement chez mes amis lorsque c'était possible, évitant donc qu'ils voient la mauvaise humeur de ma mère s'ils venaient à la maison. Au fil des ans, souvent les enfants uniques développent des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur vie. Savoir être autonome en est une compétence. Être capable de se débrouiller seul et non pas toujours devoir se fier sur les autres. S'amuser seul tout en ayant du plaisir. Car être seul ne signifie pas s'ennuyer. Non, 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 pas toujours. Il s'agit de développer son sens de l'imagination, de la créativité, ce petit côté artistique en moi est mon préféré. Je suis une artiste dans l'âme. J'aime tout ce qui est créatif, qui implique l'imaginaire, les mots, les couleurs, l'improvisation, la musique, la peinture, la liste est longue. Créer quoi? Ensuite, être fonceuse, malgré la peur de l'inconnu. Ah, j'ai travaillé longtemps afin de pouvoir aller de l'avant. Ah, malgré les peurs qui me tenaillaient. J'avais peur de tout et de rien. J'y travaille encore, j'avoue. Mais je suis tellement heureuse lorsque je finis par passer par-dessus une peur. Elle finit donc par disparaître et moi, je peux passer à autre chose. Ensuite, ne pas remettre notre valeur en question. Suite à un traumatisme comme une agression, par exemple. Ça, c'est primordial. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'agresseur a pour mission de prendre le contrôle sur vous. Il désire plus que tout vous faire croire qu'il a votre vie en main, et votre présent et votre futur. Et si vous le laissez vous manipuler, vous finirez par croire, même des mois et des années après l'agression, que vous ne valez rien. Et si la plupart des agressions sont commises, disons, par un parent, vous pouvez pendant une grosse partie de votre vie combattre l'idée que vous ne valez rien, car on vous l'a répété tellement souvent que vous finissez par croire ces gens-là. Alors, vous êtes maintenant adulte. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes toujours sur vos gardes. Vous n'appréciez pas trop les hommes insistants, même lorsqu'ils blaguent. Votre humeur est très changeante. Vous sentez que vous êtes différente des autres dans votre groupe d'amis et l'agresseur potentiel, qui finira par se retrouver sur votre route, vous sentira 100 000 à la ronde. Je me souviens avoir été abusée tellement souvent, entre 11 ans et 20 ans, disons, que je ne pouvais même pas compter les fois sur mes deux mains. Et je savais que j'étais différente. Je me suis jamais sentie comme les autres, dans le fond, depuis ma tendre enfance. Mais maintenant, j'aime ce côté de moi. Ça fait de moi une personne unique. Et quand j'étais jeune, j'étais celle qui buvait moins que les autres, sauf dans de rares exceptions. Je ne voulais pas encore me faire disputer par ma mère, alors j'essayais de ne pas arriver trop tard à la maison et surtout de ne pas sentir l'alcool. Alors, parce que j'avais toute ma tête et que je n'étais pas à moitié saoule, je me retrouvais souvent avec des hommes qui semblaient intrigués par moi. Celles qui ne riaient pas à toutes leurs blagues, surtout pas si elles n'étaient pas drôles. Je n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit, je me sentais mature, un côté indépendant et un brin trop sûr de moi. Dans le fond, j'avais deux côtés. Vous savez, comme la mini-wheat. Il y avait le côté fille très indépendante et tellement au-dessus de ses affaires afin d'avoir l'air d'une femme adulte. Et l'autre, une enfant apeurée, prise dans le corps d'une jeune femme en train de devenir adulte. Alors, ce côté sûr de moi avait tendance à me mettre dans le trouble, comme on dit. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que je comprenne bien que je ne m'en sortirai pas. Car malgré mon côté confiant, lorsque tu te retrouves coincé entre un homme ivre et un mur de briques, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire, surtout s'il est grand et fort et que tu sois minuscule. Car je l'étais à ce moment. Plus maintenant. Et pourquoi je peux vous raconter ça avec un brin d'humour inséré ici et là dans mon histoire? Mais j'ai compris que les fautes des autres, de mes agresseurs, de ma mère, n'ont aucun rapport avec ma propre valeur, avec mon identité, avec mon cœur et mon âme. Je ne suis pas victime, je suis survivante, je suis fière, je suis forte, comme vous toutes, et j'ai le droit d'être heureuse, comme nous toutes. J'ai commencé à me répéter ces affirmations régulièrement. Et à force de me le répéter, de le ressentir, de me regarder dans le miroir avec compassion et respect, j'ai fini par comprendre que la rage en moi face à toutes ces agressions, c'est elle qui me gardait vers l'arrière. Pas les agresseurs qui, eux, allaient de l'avant avec leur vie en m'ayant probablement oublié, mais c'est moi qui gardais ces liens comme des gros boulets bien collés sur moi. Partout où j'allais, ils y étaient. Mes paroles ont tellement de puissance et je devais reprogrammer ma façon de parler à mon sujet, ma façon de penser, de me voir autant dans le passé que dans le futur. Je devais me voir comme une femme forte et courageuse ayant un gros bagage d'expériences, certaines, oui, traumatisantes, mais aussi, j'ai voulu tourner cette noirceur en clarté. J'ai voulu tourner ceci à mon avantage, c'est-à-dire devenir un témoignage vivant de ce que la détermination, le positivisme et l'humour ont comme puissance dans le cheminement vers la guérison. Maintenant, il est temps d'accueillir une femme magnifique qui déborde d'amour et de compassion. Une femme ayant vécu beaucoup de violences familiales. Et j'aimerais bien qu'elle puisse nous parler de ce qu'elle a vécu et aussi de nous expliquer à sa façon comment elle s'y est prise pour assimiler le pardon afin de se libérer. Alors, bonjour, chère amie de mon cœur. Je vous présente Manon, que je considère comme la sœur que je n'ai jamais eue. Alors, chère amie précieuse, peux-tu partager avec nous une tranche ou deux de ta vie? Je crois que plusieurs auditeurs en seront très inspirés et touchés, tout comme je l'ai été, et le suis toujours d'ailleurs. Alors, la parole est à toi, chère.
Bien, tout d'abord, je te remercie infiniment pour ce bel accueil-là, cette belle présentation. C'est vraiment touchant parce que ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît, puis je peux te dire la même chose de ton côté. T'es une personne vraiment de cœur, puis on a beaucoup, je pense, d'admiration l'une l'autre parce qu'on était assez fortes, comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Lorsqu'on vit des choses difficiles, on a comme une espèce de complicité. Et pour aborder ton sujet, je sais que je suis pas la seule, malheureusement, qui a vécu de la violence familiale ou toute autre forme de violence. Malheureusement, c'est partout dans le monde. Hein? Il y a personne qui, d'une manière comme une autre, et particulièrement la violence familiale, tout le monde est très affecté par ça. Comment je vais l'aborder? Puisque je ne suis pas toute seule, je pourrais dire oui, j'ai vécu des sévices psychologiques, physiques. Mon père était très violent. Mais étant donné que je ne suis pas la seule à vivre ça, je voulais partager un petit peu mon parcours. Alors, j'ai commencé vraiment par me dissocier. Puis la dissociation que je parle, c'est que particulièrement pour la violence physique et psychologique, ça va ensemble, il y a plusieurs types de violences, mais on perd l'estime de soi beaucoup et on finit par associer ce que l'on a dit de soi comme étant des vérités. T'es pas bonne, t'es pas fine, tu vaux rien, tu feras jamais rien de bon dans ta vie. Et à se faire répéter ça, on finit par le croire. À se faire battre physiquement aussi, on finit par avoir des résistances épouvantables. C'est ce qui nous barricade, ni plus ni moins, dans notre propre vie par la suite. Et ça nous amène dans le non-pardon. Parce que dans le non-pardon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la peur. C'est la peur là qui est un réflexe normal quand l'environnement est hostile. On se stresse. On vit une tension constante. On est hyper vigilant de ce qui va se passer par la suite dans notre vie. Et ça nous amène vraiment à vivre une prison intérieure. On se barricade dans des peurs. Dans cette pensée-là qu'il faut toujours être plus que parfait pour en arriver à quelque chose dans notre vie. Alors, le stress est tellement grand qu'on finit par aboutir à rien. On finit par être agressif méfiant des autres, en tous les cas, il y a un paquet de systèmes de défense qui se mettent en branle justement pour protéger la partie vulnérable qui est en nous. Et c'est ça, le faible estime de soi, à un moment donné, nous rend très, je dirais pas le mot malveillant envers soi, mais on manque de bienveillance. On se sent toujours comme si on avait inconsciemment quelque chose à prouver. Et ce quelque chose-là, c'est « oui, je suis valable, oui, je suis une bonne personne ». Et ça touche autant les hommes qui ont vécu de la violence que les femmes. Alors, le pardon, oui, c'est un cheminement qui est très difficile parce que lorsque je parle de barricades, ce sont nos protections intérieures, hein, contre ce qui a été dur à notre endroit. Pour pardonner, il faut en arriver à lâcher prise sur ces barricades-là. Et ça demande énormément de temps. Personnellement, je peux dire que je suis croyante, ça l'a aidé un peu parce que ça fait partie d'un cheminement spirituel, mais humainement parlant, c'est à peu près la même chose. Le temps de dire « oui, je veux me libérer » à « oui, je veux pardonner », il peut avoir tout un chemin, tout simplement parce que on peut avoir l'impression d'être un mouton. On peut avoir cette impression-là aussi que l'agresseur, quel qu'il soit, peut s'en sortir facilement si on pardonne. On a une espèce de croyance qui peut être là et qui nous retient dans ce désir-là de se libérer. Alors, grosso modo, pour apprendre à pardonner, moi, je dirais, j'irais avec qu'est-ce que le non-pardon cause au fond de notre cœur. J'en ai parlé un peu. La méfiance, de la colère, du ressentiment, un vide intérieur, une impression d'être toujours sous tension nerveuse. Tu parlais dans ton ancien épisode, le dernier épisode que tu as fait là, sur ta maman. Elle vivait un ressentiment constant et ça l'a conduit jusqu'à l'alcoolisme. Mais, à quelque part, c'est tout le temps la même chose. C'est comme un reniement de ce qu'on aurait pu être si on avait été dorloté, choyé, si un événement de notre vie se serait passé différemment. Alors, il faut apprendre à être bon envers soi. Il faut apprendre aussi à transformer notre besoin de contrôle en un besoin de liberté et de laisser aller. Et les étapes pour ça, évidemment, c'est d'être bon envers soi, je le dirai jamais assez, mais non seulement ça, c'est d'apprendre à aimer, mais à notre rythme, et à essayer de relativiser ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là, même si c'est très difficile, on le fait pas pour eux, on le fait pour nous. Pour se dégager de ça et ne pas avoir cette impression de passer à côté de notre vie, ce qui serait absolument dommage parce que chaque personne est unique. Chaque personne a le droit d'accueillir son vécu et de se dire que le pardon est une étape qui se fait pas d'un coup sec, hein, c'est pas une baguette magique, mais c'est au fur et à mesure de nos oui à l'acceptation de ce que nous avons vécu. C'est possible d'être heureux et d'apprendre à cheminer, d'apprendre à grandir ensemble, à faire confiance aux autres et à se faire confiance en bout de ligne parce que les autres sont souvent le reflet de ce que nous portons. Alors, c'est se fortifier. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre parce qu'il y en a tellement à dire, c'est quand même un gros sujet. Oui. Mais je dirais que de pardonner est libérateur. Ça permet non pas d'oublier, parce que l'oubli, c'est quelque chose d'involontaire, c'est ce qu'on dit, et le pardon est volontaire. Je décide de me choisir et de lâcher prise sur des choses qui m'ont fait atrocement mal. Et c'est de se donner le temps, surtout, de s'accueillir, de dorloter l'enfant qui a été blessé, de lui permettre de sourire tout doucement à la vie, ne serait-ce que par des petits bonheurs quotidiens. Ça peut être un petit café au restaurant lorsqu'on va pouvoir, parce que là, on est dans le confinement, mais des petites choses qui vous font goûter la vie à nouveau. Alors, voilà. J'espère
oui.
que ce tout petit clin d'œil sur le pardon aura plu à tout le monde, à tes auditeurs, chère Claudine.
Alors, n'est-ce pas merveilleux de réaliser et de comprendre que nous avons le contrôle sur nos choix, de façon de voir, de rêver notre vie, et nous pouvons passer par-dessus toutes sortes d'épreuves, aussi difficiles soient-elles. On en a un bon exemple avec le témoignage de Manon. Il faut se donner la peine d'essayer. Nous en valons l'effort. Nous avons le droit au bonheur. Et les fautes des autres, la rage des autres, le manque de confiance des autres, tout ça, ça ne nous appartient pas. Arrêtons de nous approprier des choses qui ne sont pas à nous. Ce n'est pas parce que ma mère était violente et pessimiste que je dois le devenir. Ce n'est pas parce que j'ai eu beaucoup d'hommes méchants dans ma vie qu'il n'y en a pas énormément de bons, de généreux et de saints d'esprit. Ouvrons nos cœurs à l'amour, à l'espoir, au fou rire qui nous donne mal aux côtes, aux rêves, à la créativité. Ouvrons nos cœurs à nous. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, on vous envoie tout plein d'amour et on vous souhaite de pouvoir déployer vos ailes afin de vous épanouir comme vous le méritez tant. Prenez soin de vous. Tourlou! La semaine prochaine, l'épisode 4. Qu'est-ce qui vous motive en ces temps difficiles? Par le fait même, qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux et qui vous apporte de la joie dans toute cette folie? Ah, ça va être un épisode bonbon pour moi. Je désire vraiment célébrer la femme. Cette question est dédiée aux femmes entrepreneurs, entre autres. Je voulais mettre l'emphase sur le positif et faire ceci avec l'aide de cette femme entrepreneur que j'aime bien, que je respecte beaucoup. Donc, c'est un rendez-vous jeudi prochain. Au revoir, Tourlou!